Bonjour et bienvenue dans votre émission dédiée à la recherche scientifique, le Labomatique. Les rediffusions de l'été, c'est déjà terminé. Adieu la plage, les cocotiers ou les transats de la place de la mairie si vous n'avez pas quitté Rennes cet été. Mais le Labomatique est là pour vous consoler et vous accompagne de nouveau pour cette nouvelle saison pleine de découvertes. Et pour cette première émission de la rentrée, nous avons invité Yvan Lebraz pour nous parler de son sujet de thèse, soutenu en décembre 2010 sur la réponse à un changement de salinité chez la truite arc-en-ciel. Yvan Lebraz, bonjour. Vous êtes donc docteur puisque vous avez soutenu votre thèse en décembre 2010. Donc une thèse effectuée à l'INRA-SCRIB, donc la station commune de recherche en ichtyophysiologie, biodiversité et environnement, si je me souviens bien. Donc nous avions déjà parlé dans le Labomatique avec Aude Gauthier. Mais vous, donc, vous étiez au sein de l'équipe de recherche physiologie de l'adaptation et du stress chez les poissons. Et puis également rattaché à l'UMR INRA AgroCampus, donc l'AgroCampus Ouest en génétique animale. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce qu'on peut parler de cette équipe physiologie de l'adaptation et du stress chez les poissons, et puis justement de ces thématiques de recherche qui sont étudiées?
Alors donc, dans l'équipe physiologie de l'adaptation et du stress à l'INRA-SCRIB de Beaulieu, alors décrire les thématiques de recherche, c'est assez complexe puisqu'il y a de nombreuses thématiques qui sont abordées dans l'équipe. Donc c'est une équipe de physiologie à l'origine, mais qui utilise de plus en plus d'outils génomiques et génétiques pour étudier en fait, on va dire, l'impact du stress chez les poissons en général. Par cette approche, enfin, il y a différentes approches qui sont utilisées pour étudier cette réponse au stress chez le poisson. Dans le cas de ma thèse, par exemple, c'était une approche génomique et génétique. On recherchait les gènes qui étaient en rapport avec la réponse à un stress de salinité chez la truite. Il y a d'autres chercheurs dans l'équipe, dont certains travaillent, par exemple, sur la réponse au stress de salinité également chez la truite arc-en-ciel, mais d'un point de vue plus au niveau morphologie de la branchie, par exemple, et morpho-fonctionnel. En fait, c'est une étude morpho-fonctionnelle de la branchie. On regarde les modifications morphologique des tissus, du tissu branchial après un transfert par exemple d'eau douce en eau de mer, et on regarde également les implications fonctionnelles au niveau de la branchie et au niveau des cellules du tissu en tant que tel et des différentes cellules que l'on retrouve dans le tissu branchial. Il y a une autre partie de l'équipe qui travaille plus sur l'impact des perturbateurs endocriniens, donc il y a aussi un gros travail qui est fait au niveau hormonal, réponse des poissons à des facteurs externes qui vont perturber en fait le système endocrinien notamment. Donc je pense notamment à un post-doctorant qui travaille, Xavier Thérien, qui travaille sur l'impact de différentes molécules, dont par exemple le célèbre bisphénol A dont on parle souvent, dans les perturbations endocriniennes chez le poisson. Il y a aussi différentes études qui sont faites sur le développement précoce des poissons. Je pense notamment à tout ce qui est impact d'un stress, par exemple, au niveau même de l'œuf, de l'œuf ou de l'embryon, mais par exemple de l'œuf, et de l'impact que ça peut avoir plus tard sur le développement de l'embryon du poisson. Donc là, c'est fait, par exemple, sur d'autres espèces de poissons, comme le médaca ou le danio, là, en l'occurrence, c'est le médaca, pour étudier le développement, l'impact d'un stress précoce sur le développement des embryons, sont étudiés également l'expression des gènes, mais des malformations au niveau morphologique et autres. Il y a encore un autre volet dans l'équipe qui est traité notamment par une ingénieure de recherche, Violaine Colson, qui traite lui du comportement de la truite notamment, donc du poisson en général, mais de la truite en l'occurrence comme modèle. Donc c'est une personne qui a été recrutée il n'y a pas très longtemps, c'est un nouvel axe qui a été développé dans l'équipe. et qui traite donc du développement, enfin de l'impact du stress sur le comportement du poisson.
Vous travaillez pendant votre thèse sur la truite arc-en-ciel. Alors, donc dans un premier temps, peut-être avant de parler en détail de votre recherche, on peut peut-être faire un point sur certains termes afin de mieux comprendre par la suite. Alors déjà, qu'est-ce que le QTL ? Parce que je pense qu'on va en parler. Alors
effectivement, QTL, c'est un terme que les généticiens emploient régulièrement. Donc la définition en fait de QTL, c'est un terme qui est utilisé pour quantitative trait lossy. En fait, derrière ce terme est cachée la notion de locus, c'est-à-dire de région chromosomique. Ça peut être un gène par exemple, mais ça peut être plusieurs gènes. C'est pour ça qu'on parle plutôt de locus, on parle d'une région génétique dont le polymorphisme va jouer sur la variabilité de l'expression d'un caractère. Donc ça veut dire que le QTL, pour parler plus précisément, va raccrocher directement une caractéristique génétique à une caractéristique qu'on appelle phénotypique, à savoir un caractère que l'on peut mesurer ici, un caractère quantitatif, comme par exemple le taux de chlore dans le sang ou le poids d'un organe ou le taux de cholestérol ou des choses comme ça.
Et donc ensuite, pour revenir peut-être justement au modèle de la truite arc-en-ciel, c'est une espèce de poisson qui appartient à la catégorie des téléostéens euryalins. Alors est-ce qu'on peut expliquer de quoi il s'agit ?
Oui, alors la truite arc-en-ciel est un téléostéen, donc ça veut juste dire que c'est un poisson osseux en fait, hein, si on essaye de classifier grosso modo les téléostéens. Donc c'est un poisson osseux, euryalin, ce qui a la particularité de pouvoir vivre, d'évoluer en eau douce comme en eau de mer. Alors la truite arc-en-ciel est un poisson qui, comme beaucoup de salmonidés, naît en eau douce, en rivière, et a la possibilité d'aller passer une période de sa vie en eau de mer où il va grandir pour pouvoir revenir ensuite dans son milieu d'origine, en tout cas en eau douce, pour se reproduire. Donc l'euryanidité, c'est vraiment la caractéristique des poissons qui peuvent vivre à la fois en eau douce et en eau de mer. Alors c'est vrai que la truite arc-en-ciel est un petit peu particulière par rapport à ses cousins le saumon ou la truite fario, puisqu'elle n'a pas obligatoirement un stade de vie marin. Comme c'est un poisson qui a été importé des États-Unis, d'Amérique, il a été importé dans les bassins d'eau douce en France notamment et dans les lacs. C'est un poisson qui a perdu beaucoup de sa capacité à aller en mer, et c'est vrai qu'ici en France on ne l'utilise pratiquement que en eau douce, et on l'utilise en tout cas dans les schémas aquacoles uniquement qu'en eau douce.
D'accord, et donc on va peut-être pouvoir maintenant justement expliquer plus précisément votre travail de recherche durant ce doctorat, puis on pourra revenir après sur certains termes. Donc quel a été déjà votre sujet de thèse plus précisément, et puis quelles ont été les étapes de cette recherche?
Alors, mon sujet de thèse, c'est toujours un peu barbare à énoncer, bien qu'il a été simplifié, heureusement. Mon sujet de thèse en tant que tel, c'était en fait l'étude génétique et génomique de la réponse à un changement de salinité chez la truite arc-en-ciel. C'était en fait l'étude d'un transfert de truite arc-en-ciel d'eau douce en eau de mer via trois approches principales, qui peuvent être déclinés sous deux grands axes. Un premier axe de génomique fonctionnelle, de génomique différentielle, où on a étudié l'expression des gènes entre des poissons transférés d'eau douce en eau douce, ou des témoins, contre des poissons transférés d'eau douce en eau de mer. Et on essayait de voir parmi quelques milliers de gènes que l'on peut mesurer, dont on peut mesurer l'expression chez cet organisme, on essayait de voir quels étaient les gènes qui variaient le plus lors de ce transfert en eau douce et en eau de mer, et qui étaient donc possiblement utiles à la truite pour pouvoir s'acclimater en eau de mer. Et l'autre grand axe, c'était l'approche génétique, donc par une approche de type QTL, dans laquelle donc, il y avait deux approches. Il y avait une première approche qui était la recherche de QTL d'acclimatation à la salinité, où on recherchait chez nos truites donc des QTL, des locus, des zones du génome qui semblaient liées à la bonne acclimatation des poissons en eau de mer. Quand je dis bonne acclimatation des poissons en eau de mer, en fait on mesurait le taux de sel dans leur sang, donc de chlore et de sodium, sachant que plus l'entrée de sel est importante, plus il a de sel dans le milieu intérieur du poisson. Plus ça veut dire que le poisson a eu du mal à se battre contre l'entrée de sel au niveau de son épithélium branchial en particulier. Et donc, il a du mal à s'acclimater à l'eau de mer. Donc, on cherchait en fait des régions chromosomiques qui semblaient être liées à la bonne réponse à un changement de salinité. Et donc, dans cette même classe, cette même étude, il y avait une deuxième approche qui était l'approche QTL d'expression, où là, on essayait en fait de relier un peu l'aspect génétique et génomique, c'est-à-dire l'aspect gène et expression de gène, donc aller vers le fonctionnel, pour essayer de mieux comprendre quelle était l'implication des QTL obtenues lors de la première approche dans cette approche génétique, dans cette classe génétique. Donc cette approche de QTL expression, c'était en fait rechercher des régions du génome qui étaient liées à une variation de l'expression de certains gènes et qui étaient en lien d'un premier côté avec les gènes dont l'expression était intéressante via la première approche de génomique fonctionnelle, mais également liées au QTL qu'on avait trouvé pour des caractères de concentration en sel dans le sang de nos poissons.
Et alors justement, donc on parle de choc osmotique et d'osmorégulation. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et puis quelles sont justement les étapes et puis les organes impliqués dans ce processus ?
Alors oui, il faut savoir que chez un poisson, on va prendre le cas d'un poisson eurialin qui peut vivre en eau douce ou en eau de mer, donc le cas de la truite par exemple, ou des salmonidés en général. Lorsqu'un poisson évolue en eau douce, il va avoir en fait une pression osmotique intérieure, c'est-à-dire pour schématiser une concentration en soluté interne, donc dans ses liquides, dans le plasma, dans le sang, qui va être très supérieure à la concentration en soluté dans le milieu environnant, donc dans l'eau douce par exemple. Dans l'eau douce, il y a très peu de sel, très peu de soluté en général. Et donc ça va provoquer en fait d'une façon passive un mouvement des solutés du milieu intérieur du poisson vers l'extérieur. Et en même temps, on va avoir un phénomène d'osmose, on va avoir une entrée d'eau du milieu environnant vers l'intérieur du poisson. Donc quand le poisson est en eau douce, il va devoir contrecarrer ça en faisant en sorte de garder ses ions dans le milieu intérieur et d'éviter des entrées d'eau du milieu extérieur vers le milieu intérieur. Évidemment, dans l'eau de mer, c'est le phénomène inverse qui se passe et le poisson va devoir lutter contre une entrée de sel dans son milieu intérieur et une fuite des liquides vers le milieu extérieur. Donc c'est ce qu'on peut appeler l'osmorégulation. Et pour contrecarrer ces phénomènes passifs, en fait, le poisson va mettre en place des mécanismes actifs cette fois, qui vont se mettre en place au niveau des organes osmorégulateurs. Donc il y a différents organes qui peuvent être impliqués. Hein. On parle des reins ou de l'intestin, mais le principal organe osmorégulateur reste quand même chez le poisson la branchie. C'est le lieu principal d'échange d'io et d'ion entre le milieu interne, à savoir le sang du poisson, et le milieu extérieur, l'environnement et l'environnement du poisson, à savoir l'eau douce ou l'eau de mer, selon le cas.
Et autre processus également, le processus homéostatique. De quoi s'agit-il ?
L'homéostasie, en fait, s'applique à différents paramètres. Si on parle d'un paramètre en particulier, par exemple l'homéostasie ionique, ça veut dire qu'en fait, l'organisme ne peut évoluer. Le fonctionnement d'un organisme ne peut être qualifié de normal que si ses concentrations en ions, par exemple, sont dans une certaine gamme qui est définie. Et cette gamme, en fait, définit l'homéostasie, c'est-à-dire que le poisson ne doit pas s'écarter de cette gamme-là s'il ne veut pas être en situation de stress, par exemple. Donc l'homéostasie ionique définit en fait les valeurs normales que doit avoir un individu pour que sa physiologie se déroule normalement. Et quand un poisson est par exemple placé en eau douce ou en eau de mer, il va devoir se battre contre les flux d'eau et d'ions pour justement garder une certaine homéostasie ionique qui est compatible avec son fonctionnement physiologique.
Et qu'est-ce qu'une analyse transcriptomique, hein, puisque c'est ce que vous avez utilisé, je crois, pendant justement votre recherche?
Alors effectivement, les analyses transcriptomiques, je les ai étudiées donc dans les deux différents volets, le volet génétique et le volet de génomique fonctionnelle. La transcriptomique, c'est l'étude de l'expression des gènes. et plus particulièrement de l'expression de l'ensemble des gènes, en théorie. En pratique, on ne va pas étudier tous les gènes de l'individu chez la truite, puisqu'on ne connaît pas encore tous les gènes, que le séquençage du génome n'a pas encore été effectué. Mais par exemple, le premier volet de ma thèse qui traitait d'une étude de transcriptomique différentielle, nous partions sur l'étude de plus de 9000 gènes. Donc, nous étudions l'expression de 9000 gènes chez des poissons transférés d'eau douce en eau douce et des poissons transférés d'eau douce en eau de mer. Et on regardait si certains de ces gènes semblaient être différentiellement exprimés entre ces deux milieux.
Donc justement, quelle est la différence aussi entre, alors déjà ce qu'on appelle un gène candidat, donc peut-être on peut peut-être expliquer aussi ce qu'est un gène candidat, et puis la différence entre ce que vous appelez gène candidat fonctionnel et positionnel.
Alors en fait, la notion de gène candidat, c'est tout simplement lorsqu'on fait une étude, par exemple une étude transcriptomique, où on va travailler sur l'expression de milliers de gènes, on va réussir à la fin d'une analyse à isoler 5, 6, peut-être 10 gènes qui semblent en tout cas être vraiment intéressants pour un processus biologique donné. On va qualifier ces 5-10 gènes, ce groupe de gènes, des gènes candidats, c'est-à-dire des gènes potentiellement intéressants qui sont potentiellement appliqués dans un processus biologique. Alors après, parmi les gènes candidats, effectivement, dans ma thèse, je dissocie deux types de gènes candidats. Il y a le gène candidat fonctionnel et le gène candidat positionnel. Donc le gène candidat positionnel, c'est par exemple lors d'une analyse QTL, on va essayer de rechercher des locus, c'est-à-dire des régions chromosomiques. Donc c'est en fait une région sur laquelle il peut y avoir plusieurs gènes, mais peut-être un seul gène. On va regarder en fait sur ces QTL-là, on aura peut-être un gène qui a été déjà référencé comme potentiellement intervenant dans le processus biologique d'intérêt, par exemple ici la réponse à un changement de salinité. Et dans ce cas-là, ce gène, s'il est situé sur un QTL qu'on a obtenu dans nos analyses, ce gène va être qualifié de candidat positionnel, c'est-à-dire qu'on a identifié, grâce à des méthodes de cartographie génétique, ou en tout cas de recherche de locus de gènes d'intérêt au niveau positionnel, on a repéré ce gène à un endroit sur le chromosome qui semble être intéressant. Le candidat fonctionnel, donc le gène candidat fonctionnel, quant à lui, c'est un candidat qu'on a repéré grâce à des études fonctionnelles, comme son nom l'indique, donc par des études par exemple de transcriptomique, où on aura analysé l'expression différentielle de gènes entre deux conditions.
Et alors ensuite, justement au niveau des observations, des analyses, comment ça se passe? Comment vous avez pu observer ces truites?
Alors derrière, il y a un gros travail d'analyse, forcément, que je ne peux pas faire tout seul, ou en tout cas, j'aurais pas pu faire ça tout seul pendant ma thèse, donc il y a un gros travail de collaboration, parce qu'en fait, il s'agit déjà d'emblée d'entrée, en tout cas pour tout ce qui est analyse QTL, c'est-à-dire qu'on part d'un protocole, on part d'un protocole familial, donc il faut qu'il y ait des truites qui aient été sélectionnées il y a de ça quelques années, qui aient généré des lignées, donc là en l'occurrence, on travaillait sur deux lignées de truites qui étaient différentes pour leur réponse au stress, en fait. Et il y a eu donc des croisements qui ont été faits entre ces deux lignées, et le résultat de ces croisements ont donné une nouvelle génération de truites, donc on appelle une génération F1. Et nous avons travaillé dans le protocole QTL sur des générations F2, c'est-à-dire sur les descendants du croisement de ces descendants entre les deux lignées divergentes pour leur résistance à un stress. Donc il y a le côté matériel biologique qui est très important, où donc là on travaille sur des lignées de poissons qui sont issues de sélections qui ont été faites dans des schémas aquacoles à l'étranger d'ailleurs, en l'occurrence à mine de mer. Et ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui est prélèvement. Donc nous, là, on essaye de relier les caractéristiques génétiques aux caractéristiques phénotypiques. Donc ça veut dire que d'un côté, il va falloir mesurer les phénotypes. Donc il y a tout ce qui est prélèvement de sang sur nos truites. Donc on avait quand même 1000 poissons pour notre protocole. Et les poissons ont été testés deux fois. Donc ça veut dire qu'on a 2000 prélèvements de sang à faire, 2000 isolations de plasma effectuées, puis 2000 dosages de chlore, 2000 dosages de sodium. Donc là, c'est pour tout ce qui est phénotype. Après, on a également le test à effectuer sur nos poissons, c'est-à-dire qu'il a fallu avoir nos 1000 poissons qui étaient en eau douce et les transférer en eau de mer. Donc ça implique quand même de grosses infrastructures et surtout un gros raisonnement quant au protocole à utiliser pour pas qu'il y ait de problèmes d'effets confondus, comme on dit, pour pas qu'il y ait de problèmes au niveau statistique après dans les analyses. Passer ce côté technique, on va dire, et manipulation. Après, il y a tout ce qui est analyse, donc il y a récupération des données, les informations de concentration en chlore, en sodium. Donc le côté analyse, c'est analyse statistique, où on va utiliser des logiciels qu'ils utilisent, des logiciels courants qui sont utilisés pour l'analyse de données, des choses un peu moins courantes comme des logiciels qui sont appelés par des codes, en fait, par des langages de code, hein, je pense au langage, au logiciel R par exemple. L'une des difficultés quand on travaille sur la truite, c'est que c'est un poisson qui n'est pas qualifié comme un poisson modèle, en fait, puisqu'il n'y a pas le génome qui est séquencé, on connaît peu de choses dessus. Donc dès qu'on travaille au niveau génétique, au génomique sur ce poisson-là, on travaille un peu sur, à la main, on va dire. C'est-à-dire que les outils qui sont développés, qui sont accessibles pour l'homme ou pour les espèces modèles, ne le sont pas pour des poissons, enfin pour des organismes. Comme la truite. Donc ça implique de grosses difficultés au niveau interprétation des données, au niveau analyse des données. On ne peut pas utiliser des logiciels qui sont prévus pour l'analyse normale, ou en tout cas on ne peut pas les utiliser directement. Alors après, c'est vrai qu'il y a aussi un côté, pour tout le côté génétique, il y a un côté génotypage, hein, je vous ai parlé du phénotypage et de l'analyse statistique. Il y a une partie génotypage, donc il faut déterminer les haplotypes de nos individus, donc de nos 1000 individus qui ont été testés deux fois. Et pour ça, on a notamment collaboré avec des gens de génétique animale de Jouy-en-Josas, de l'INRA à Jouy-en-Josas, hein, l'UMR Gabi, avec Edwige Quillet, qui était quasiment une co-encadrante de ma thèse, puisqu'on a beaucoup collaboré ensemble sur ce projet-là. Donc de leur côté, à Jouy-en-Josas, ils ont fait un gros travail pour récolter les données, pour essayer d'en tirer les informations au niveau génétique. Et surtout, le plus important, et ça c'est vrai aussi pour le côté phénotypage et analyse statistique et tout ce qui va avec, il y a un gros, gros travail de vérification, en fait. On peut pas se contenter de faire une seule fois une analyse ou une seule fois un phénotypage et dire que c'est bon. Non, on est obligé de le faire, en tout cas pour ce qui était génotypage, par exemple. Ça a été relu deux fois par des personnes différentes sans qu'il y ait de croisement pour pouvoir être sûr des données. Pour tout ce qui est analyse, c'est pareil. Lorsque j'ai effectué les analyses, notamment QTL, je les ai faites en doublon avec un camarade de Jouy-en-Josas. Et après, on comparait nos résultats pour être sûr qu'il n'y avait pas d'erreur.
Et alors, justement, donc, au niveau des données que vous avez pu ensuite récolter, est-ce que ce sont des résultats qui sont satisfaisants, entre guillemets, ou alors est-ce que c'est une recherche aussi qui va continuer par la suite ?
Oui, alors effectivement, les résultats sont satisfaisants. Je crois qu'ils sont toujours satisfaisants. Même quand on a des résultats qui ne montrent rien, c'est un résultat en soi, ça veut dire qu'on n'a rien. Là, dans notre cas, le volet QTL, on va dire, approche génétique, qui a été fait pour la première fois chez la truite pour une réponse à un changement de salinité, a permis de voir qu'il y avait vraiment une forte composante génétique dans la réponse à un changement de salinité chez la truite arc-en-ciel. Ça a permis d'identifier 5 locus, donc 5 régions chromosomiques qui semblent vraiment avoir un rôle important dans les capacités différentielles d'acclimatation à l'eau de mer. Et puis le volet fonctionnel, on va dire, que ce soit la première approche de transcriptomique différentielle ou celle de QTL d'expression, nous a permis de relier ces informations génétiques à notre processus biologique, donc la réponse à un changement de salinité, sous-jacent en fait des capacités d'osmorégulation. Ça nous a permis en fait d'aller des 5 régions chromosomiques que l'on a identifiées vers le processus biologique, la capacité d'acclimatation, de réponse à un changement de salinité, tout en passant par certains gènes dont l'expression semble être importante, et donc des voies de régulation en fait. Hein, et au-delà de ça, on peut essayer d'inférer sur des groupes de gènes qui interagissent et qui sont dans des voies de synthèse ou des voies de signalisation, en tout cas bien connues. On peut essayer d'agir sur certains 1, 2 ou 3 gènes qu'on a identifiés, qui sont vraiment des gènes qui ont déjà été mentionnés dans la littérature comme intervenant dans la réponse à l'acclimatation à l'eau de mer.
Et est-ce qu'on peut, par rapport à ces résultats aussi, faire un parallèle avec d'autres espèces ?
C'est difficile à dire. On ne peut pas dire qu'il y a qu'il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur l'osmorégulation sur le poisson, mais à notre échelle, oui, quand on travaille sur le poisson, il y a quand même énormément de personnes qui se posent des questions quant aux capacités différentielles d'acclimatation à l'eau de mer ou à l'eau douce, hein, chez le poisson. Et plus généralement sur l'osmorégulation chez le poisson. Et il y a une communauté qui se pose beaucoup de questions par rapport à ça, que ce soit sur la truite, enfin chez les salmonidés en général, la truite, le saumon, mais également chez des espèces comme le bar, une espèce aussi d'intérêt économique très importante, notamment en France. Bien sûr, l'une des espèces modèles dans ce secteur-là, c'est le tilapia. Et c'est très important, les études multispécifiques, parce que ça permet, alors effectivement, on va retrouver des choses, des processus assez communs entre des espèces proches. Donc on s'attend par exemple à ce que nos résultats trouvés chez la truite arc-en-ciel puissent être assez facilement transposés chez le saumon, qui est une espèce voisine, on va dire. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est que chez d'autres espèces comme le tilapia, qui est vraiment une espèce qu'on peut presque qualifier de modèle pour la réponse à la salinité, tout ce qui est acclimatation à l'eau de mer, là, on n'est plus du tout dans les mêmes mécanismes, on va dire, au niveau physiologique. Mais c'est intéressant également parce que ça permet de dissocier ce qui peut être les différents niveaux de réponse à un changement de salinité, à savoir par exemple une période de stress qui va être différente d'un processus d'acclimatation et qui est encore différent d'un processus d'adaptation à long terme des poissons à un milieu différent.
Et enfin, pour terminer, quel a été votre parcours universitaire avant la thèse, et puis pour peut-être aussi conseiller des étudiants qui aimeraient travailler sur ces thématiques-là.
Donc mon parcours était principalement breton, puisqu'en fait j'ai effectué toutes mes études à Brest, donc à l'Université de Bretagne Occidentale, où j'ai effectué ma licence, une licence en biologie des organismes et des populations. S'en est suivi un master 1 et master 2 recherche en sciences biologiques marines à l'IUM, l'Institut universitaire européen de la mer, qui est situé à Pouzané, hein, qui est juste à côté de Brest. L'intérêt d'aller à Brest pour moi, c'était dès la licence, la première année de licence, qui à l'époque s'appelait le DEUG, c'était d'avoir des cours qui étaient déjà axés vers tout ce qui était milieu aquatique et milieu marin en particulier, puisque les intervenants étaient des chercheurs de l'IUM. Comme c'était vraiment ce que je voulais faire, c'était plus intéressant d'avoir tout de suite des cours là-dessus plutôt que de ne travailler que sur des rats, des souris et compagnie pendant quelques années. Une fois mon master en poche à Brest, c'est vrai qu'il faut trouver une thèse. Alors, il y a différentes écoles. Pour ma part, je ne voulais pas prendre une thèse à tout prix. Donc, j'ai vraiment recherché dans les différentes écoles doctorales qu'on peut trouver en France en sciences de la vie les sujets qui m'intéressaient. Typiquement, j'en avais deux qui m'intéressaient bien, un à Rennes et un à Brest. Et puis, j'ai été choisi sur le projet à Rennes par l'école doctorale. Donc, via le concours. L'une des particularités, je pourrais dire, de mon cursus, et c'est quelque chose que j'utilise souvent pour encourager les jeunes que je peux voir en stage ou qui peuvent me demander conseil, c'est surtout de bien croire en sa motivation. C'est-à-dire que les gens qui font un doctorat ou des longues études en général, ou qui font des écoles d'ingénieurs, ne sont pas forcément des premiers de la classe, hein. Ce n'était pas mon cas, loin de là, mais j'avais vraiment la motivation et la passion surtout du domaine. Et quand on voit ce que j'ai pu faire lors de mon cursus et lors de ma thèse, je pense que ça a marché, je peux en être content.
Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le www.radiocampusrennes.fr. Le Labo Matix est toutes les semaines sur le 88.4. Nous retrouverons d'ailleurs notre invité, Yvan Lebras, la semaine prochaine pour nous parler d'un tout autre projet. Il sera question de biologie intégrative. À la semaine prochaine dans le Labo Matix. Mmh.